elles, donc voilà, qui sont dans le dialogue oui. avec, eh bien, elles-mêmes ont un discours très critique sur ça. Je veux dire, regardez leur position. Franchement, elles disent elles-mêmes que les suggestions qu'elles font, parce que ce sont des ONG qui portent des propositions tout à fait raisonnables, etc. Eh bien, elles disent qu'elles ne sont absolument pas entendues dans le cadre de la préparation de ce G7.
Mais au-delà de ça, on se demande si ce sont pas des vieux modèles de diplomatie. Fondé essentiellement sur des critères économiques. On est aujourd'hui face à une crise écologique gigantesque et qui sans doute nécessite de nouvelles manières de faire de la diplomatie, de se voir et de passer des accords. Est-ce que c'est pas à ça qu'on assiste, la fin d'un modèle diplomatique aussi ?
Bertrand, oui.
Alors, je crois, d'abord, il y a un élément positif, là je rejoindrai Marc Semo, c'est d'avoir affiché la question des inégalités mondiales. Et là, d'un certain point de vue, c'est une autocritique que fait le camp, entre guillemets, occidental par rapport à la diplomatie qu'il a pu tenir. C'est-à-dire que les grands problèmes qui déstabilisent l'ordre international, ce n'est pas les missiles iraniens ou nord-coréens, ce n'est pas telle ou telle compétition de puissance, c'est cette formidable inégalité mondiale. La mondialisation a produit le système social le plus inégalitaire qui ait existé depuis Adam et Ève. Burundi, un PIB par habitant et par an, $600. Luxembourg, $100 000. Comment voulez-vous que ça tienne? Comment voulez-vous que cela ne génère pas de la violence? Le problème du Sahel, il est là. Mais là où je parle d'autocritique, c'est le fait que, effectivement, les vieux réflexes diplomatiques ont cru que tous les problèmes pouvaient se résoudre selon une grammaire militaire. C'est-à-dire, on intervenait militairement là où ça commençait à se déstabiliser et on réglait le problème. Non. Et ce que je trouve positif dans le fait de placer des inégalités mondiales au centre de cet ordre du jour, c'est justement pour démontrer à l'opinion publique que ce n'est pas une question d'intervention militaire, que ce n'est pas une question de vieil usage des instruments diplomatiques qui pourra effectivement dépasser cette instabilité et ces dangers et ces menaces, mais un traitement de fond. Et un traitement de fond, et là je vous rejoins, qui n'est pas le vieux traitement diplomatique des questions de pauvreté dans le monde, qui était un traitement en fait caritatif. L'essayait de dégager, alors même pas 0,7% du PIB, en fait 0,35% du PIB, pour aider. Il ne s'agit pas d'aider, il s'agit de co-gouverner. Et co-gouverner, ça se fait aussi avec les souffrants, les faibles et les pauvres. C'est la raison pour laquelle ce périmètre n'est plus valable.
Annie Coupé, on peut quand même aussi de temps en temps se faire l'avocat peut-être de ces grandes instances en se disant c'est peut-être le seul endroit où ils peuvent se réunir et parler de ça, justement.
Je pense que la question qui est posée, c'est celle, effectivement, comment on fait aujourd'hui pour créer des espaces internationaux où soit poser les problèmes de l'ensemble des peuples du monde et pas seulement de ces 7 États qui, même si c'est de la concertation, je veux dire, il n'y a aucune justification d'exclure 185 pays. Enfin, la question fondamentale.
Pour ça, il y a l'Assemblée générale de l'ONU.
Excusez-moi,
on la dépossède.
D'accord, mais je pense que ça sera un autre débat qu'il faudrait faire. Oui. Comment, d'une certaine façon, on refonde, je veux dire, un multilatéralisme qui prend en compte l'ensemble des réalités.
Et vous voyez quelle instance pour faire ça, vous ?
Écoutez, je pense qu'au moins, il faut le poser dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers, effectivement, une restriction et d'avoir quelques dirigeants qui pense le monde à défaut de prendre des décisions, et qui le pense dans un certain sens, eh bien, reposons, même si c'est très compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution au XXIe siècle pour affronter les enjeux du XXIe siècle, et notamment les enjeux d'une crise écologique qui touche l'ensemble de la planète, et qui touche aussi les populations les plus fragilisées dans le monde, et les populations les plus fragilisées à l'intérieur des pays. C'est là où, effectivement, on ne peut pas dissocier la question sociale et la question des enjeux environnementaux.
Marc Semo, vous avez cette impression-là qu'il y a une réflexion autour, ou alors on va encore continuer, comme depuis le début, sur...
Disons, ces instances ne sont pas contradictoires. Donc, il y a déjà une Assemblée générale de l'ONU. Il y a déjà l'ONU. Le problème, et toute la question du G7, c'est d'être autre chose. C'est-à-dire un lieu où il y a moins de pays,
beaucoup
où il y a...
Hein.
Ben, oui, mais c'est fait pour. Où on partage, à tort ou à raison, un certain nombre de valeurs communes.
Hein, lesquelles, pardon, lesquelles,
notamment,
lesquelles, qu'est-ce qui est partagé aujourd'hui entre les Italiens, les Américains, les Français, les Canadiens, les Japonais?
Au-delà du phénomène Trump lui-même, on peut dire que globalement, on partage sur la démocratie, sur l'économie, sur une certaine économie sociale.
Une vision très extensive de la démocratie.
Voilà, mais bon, c'est quand même, c'est la grande différence, par exemple, par rapport à la Chine. Une des éventualités de l'évolution du G7, parce que tout le monde est parfaitement conscient de ce décalage, hein, effectivement les grandes économies type la Chine ou l'Inde n'y sont pas, fondre le G7 et le G20, ça serait quelque chose donnerait quelque chose d'assez bâtard. Parce que, de fait, en économie, ça aurait un sens. C'est difficile de parler, par exemple, de questions plus politiques ou plus géopolitiques avec un certain nombre de pays sur lesquels, avec lesquels on ne partage pas grand-chose, voire on est en rivalité ouverte. Donc il y a ce côté de club, c'est toute sa limite, mais c'est aussi toute sa richesse. C'est-à-dire la possibilité de lancer un certain nombre de choses, de discuter d'un certain nombre de choses, alors, et cela d'autant plus librement qu'il n'y a pas de décision à prendre, de résultats concrets à avoir.
Rapidement, maître, on m'a dit.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Marc. Le système international, il est fait d'États, de systèmes politiques, de régimes politiques qui sont extraordinairement différents. Et si on veut un ordre international minimal, il faut que tous ces États puissent parler ensemble. C'est la raison pour laquelle les politiques de sanctions et les politiques d'exclusion sont tout à fait contre-productives.
Il y a des lieux où ils parlent ensemble. Mais de la même manière alors, qu'il y a aujourd'hui le groupe de Shanghai, qu'il y a aujourd'hui alors, les BRICS, il y a de nombreux sous-ensembles de ce genre qui existent sur la scène mondiale.
Oui, le problème, c'est de faire parler ensemble ces sous-ensembles. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire, vous parlez de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut-être, mais il y a quantité d'institutions multilatérales et qui font un travail absolument remarquable. L'OMS a fait un travail absolument remarquable
dans les campagnes de... Alors, où est la contradiction avec le G7 ?
Eh bien, justement, c'est-à-dire recentrer sur des institutions inclusives et non des institutions...
On vous entend bien, en tout cas, peut-être